Vous écoutez
RMC.
L'équipe qui gagne la compétition, c'est celle qui en veut le plus. Et ils peuvent le faire. En tout cas, c'est l'objectif assigné.
Allez, Michel. Voilà. Oui, Michel.
Oui, Michel.
Oui, on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini.
La chose la plus importante, c'est que le groupe est toujours soudé. On veut inspirer la jeunesse. On veut qu'ils aient des belles choses à vivre aussi.
Il est dans la surface. Allez,
oui, oui, oui.
C'est fini.
La qualité, elle est là. Évidemment, je le sais, vous le savez. La conscience d'avoir beaucoup de force. Et on aura besoin de tout ça pour ce qui nous attend.
Il y a du monde, il y a du monde, il y a Trezeguet.
Ah oui,
l'équipe de France est championne d'Europe.
RMC, UEFA, Euro 2020.
Coup d'envoi dans 3 heures.
Exactement, coup d'envoi 21h donc de Turquie-Italie. Alors évidemment, comme à chaque grande compétition, RMC vous propose un dispositif exceptionnel. Tous les matchs en intégralité seront sur RMC. La Dream Team est mobilisée pour analyser ces rencontres, menées par Captain Larquet et Jérôme Rotten, bien sûr.
Ouais.
Nos envoyés spéciaux.
Il fut trop meneur, Jean-Michel, quand même.
Ah, quand même. Ouais. Ça reste un patron.
Il s'accroche.
Ça reste un patron.
Il s'accroche à la caravane.
Et puis, nos envoyés spéciaux un peu partout en Europe vont nous relater ce qui se passe autour de la compétition et nous commenter les rencontres. Direction Rome, tout de suite, où se trouve Jeannot Rességuier. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
Salut Jeannot.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Jean-François Marc, effectivement.
Ça, leur, cette histoire,
ça les a perturbés. Bah, j'ai trois prénoms sur mon passeport. Les trois prénoms apparaissent sur l'accréditation et à chaque compétition internationale, j'y ai droit. Je passe deux heures pour leur expliquer ce que c'est que ces trois prénoms. Il y a une virgule entre chacun et informatiquement, ils ont des problèmes à sortir l'accréditation. Ils ont fini par la sortie. C'est donc
très
essentiel.
Bien. Alors Jeannot, est-ce que tu sens un parfum d'euro?
Non, très honnêtement, par rapport à toutes les compétitions que j'ai vécues, celle-là, elle est particulière. Elle est tout simplement hors norme et inédite parce que il y a bien évidemment le décalage de an, il y a la Covid avec ce qui se passe encore un petit peu partout en Europe avec des règles et des passes sanitaires qui ne sont pas les mêmes, des stades qui auront des jauges réduites. Ça va être le cas ce soir avec 16 000 spectateurs, seulement 25% du stade Olympico, trois stades dont Saint-Pétersbourg, Bakou et Budapest, où l'équipe de France jouera deux de ces trois matchs du premier tour, seront quasiment remplis à 100%. Et dans les villes, en tout cas pour ce que j'ai pu constater moi à Rome, dans les villes, on respire pas l'euro comme c'était le cas avant. Oui, il y a des flyers, il y a des logos, il y a des drapeaux, mais il n'y a pas beaucoup de supporters avec le maillot de l'Italie, par exemple. J'ai pas vu beaucoup de supporters avec le maillot de la Turquie. Mais il y a quand même cette fierté ici en Italie d'être... le match d'ouverture, d'avoir toutes les caméras du monde et d'Europe tournées sur le stade Olympico et la fierté justement d'accueillir ce match et cette cérémonie d'ouverture parce qu'ils ont un peu en travers le fait d'avoir été absent de la Coupe du Monde 2018 et qu'avec Roberto Mancini ça va beaucoup mieux, qu'il reste sur 27 matchs, toutes compétitions confondues avec la Ligue des Nations dont ils accueilleront la finale à 4 en octobre prochain avec la Belgique, l'Espagne et la France. Ils ont retrouvé le sourire, ils ont retrouvé on va dire une certaine fluidité, une stabilité dans le jeu et qui leur permet d'espérer peut-être d'aller loin. Et puis en plus, ce match d'ouverture, ce sera contre la Turquie. La Turquie, c'est la grosse cote qui n'a jamais battu l'Italie. Donc voilà, il y a une ambiance particulière autour du stade, un petit peu, là sur les dernières heures qui vont précéder cette rencontre et la cérémonie d'ouverture. Mais ça reste et ça restera un euro particulier.
Okay.
Même si peut-être après cette première journée, ça va commencer à déclencher différemment à Amsterdam pour les prochaines rencontres ou bien à Saint-Pétersbourg pour les prochains matchs.
On va surveiller tout ça. Merci Jeannot. Merci à tout à l'heure pour un avant-match complet donc de Turquie-Italie. Oui Jean-Michel, tu voulais dire un truc là ?
Non, que c'est une fausse bonne idée de mettre des matchs à droite et à gauche de Bakou jusqu'à Wembley. En fait, le club organisateur ou le pays organisateur, me semble-t-il, j'ai regardé un petit peu le calendrier, c'est l'Angleterre.
Oui.
Les Anglais peuvent quand même jouer 6 matchs à domicile dont la finale, Jérôme.
Oui, non, c'est vrai. Non, mais concernant les Anglais, oui, mais bon, c'est le cas aussi.
C'est une fausse bonne idée parce qu'effectivement, pour 2-3 matchs, eh bien, on ne met pas les petits plats dans les grands, que ce soit à Rome, à Saint-Pétersbourg ou à Bakou, c'est pas véritablement le pays organisateur de l'euro ou les pays, lorsqu'il y avait Suisse, Autriche ou Belgique, Pays-Bas, effectivement, ben, s'il y a, il y a un petit peu dispersion des énergies et dispersion de l'engouement.
Ouais, où là je te rejoins sur l'engouement. Alors après, est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? C'est vrai qu'ils ont voulu marquer le coup avec les 50 ans de l'euro, mais
fausse bonne idée.
Je pense que par rapport au contexte, en tout cas, c'est sûr que l'engouement va être encore différent. Déjà, qu'il aurait été différent, même s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire, parce que chaque pays ne peut pas s'approprier l'euro, en tout cas. Et en plus, avec cette crise sanitaire où il y a moins de gens dans les stades et moins de ferveur, ouais. Bah forcément, ça se ressent d'autant plus, comme l'expliquait Jeannot.
Vous dites que c'est pour les 60 ans de l'euro, pas pour les
60 ans. Voilà.
Oui, 1960-2020, oui.
Ouais, l'équipe de France.
J'ai raté 10 ans.
On y va, oui, c'est pas grave. Loïc Tanzi nous rejoint. Salut Loïc.
Salut à tous.
Salut Loïc, qui suit les bleus au quotidien. Quels sont
le
les.
Boudeur. C'est le boudeur, alors. C'est Loïc.
Oh, il a arrêté de bouder, Loïc, je pense.
Ouais,
il a...
un petit peu hier, aujourd'hui, ça va.
Mais tout le monde a arrêté de bouder, même Mbappé a arrêté de bouder.
Ah, bah il est devant moi à l'entraînement.
Il boude ou pas?
Actuellement.
Non, devant lui, c'est
beaucoup mieux qu'hier. Beaucoup mieux qu'hier pour Kylian Mbappé qui est souriant, qui a envie de participer à la petite opposition qu'il y a devant nous. Donc tout va bien pour Kylian Mbappé.
Il y a eu la collade avec Giroud ou pas?
Hier, en fin d'entraînement aujourd'hui.
C'est surtout Giroud qui lui a fait la collade.
Exactement, t'as vu les images, je pense, Jérôme, pour dire ça, oui.
Alors les infos du jour, qui est présent à l'entraînement, qui ne l'est pas?
Alors, il y a trois joueurs.
Fabien, attention, là, pour le porteur de balle.
De l'entraînement. Raphaël Varane, donc, par précaution, qui n'est pas là. Il a beaucoup joué durant la saison avec le Real Madrid. Il a eu quelques pépins physiques aussi. Le défenseur central, donc, qui reprendra demain l'entraînement. Et sur le terrain annexe, donc, juste à côté du terrain Pibaro, ici à Clafontaine, on a Karim Benzema et Antoine Griezmann, qui sont en train de s'entraîner tout seul là. Karim Benzema par exemple est en train de faire des gammes de passes avec un préparateur physique. Donc, les deux devraient revenir soit demain, soit dimanche, probablement demain pour Karim Benzema, peut-être dimanche pour Antoine Griezmann, qui vient de finir sa séance individuelle et qui est en train de rejoindre ses coéquipiers. Il va regarder la petite opposition qui a lieu en ce moment sur le terrain de Pibaro à Clafontaine.
Ouais, aucun problème là. Les gens qui ratent un entraînement là,
C'est bien, c'est bon signe. De toute façon, on a vite été rassurés dans tous les cas. Après, on peut pas être dans la cuisse de Karim, mais quand tu vois l'impact qui a eu cette béquille, qui est une grosse béquille, qui s'est transformée en contusion, forcément derrière il y a des soins à mettre en place, mais c'est pas, il y avait rien d'inquiétant. En tout cas, moi j'étais persuadé qu'en 2-3 jours il allait récupérer, c'est le cas, donc c'est très bien. L'équipe de France sera dans ses meilleures dispositions pour jouer en Allemagne, et c'est là-dessus que c'est bon signe.
Et en plus, il n'y a plus de problème donc entre Mbappé et Giroud.
Ouais, du moins, le problème, il a existé. Là,
mais ouais.
Après, Giroud, il a été bien réglé. En gros, et on l'oublie pendant la durée de la compétition.
Voilà. Après, c'est pas les meilleurs amis du monde, mais ça, on s'en fout. Il faut avancer, il faut pas rester sur des on-dit. Je pense qu'il y a eu une explication. On en a parlé hier, hein, déjà, nous, dans l'after, mais, et vous aussi, certainement. Mais c'est des choses qui arrivent dans un groupe.
Mais il faut que ce soit géré quand même. Il faut que ce soit mis sous le tapis.
Il faut que ce soit géré. Après, il y a le nouveau statut de Kylian Mbappé à gérer aussi, et l'attitude qu'il a et qu'il a eu par moment, et on l'a mis en avant avec le Paris Saint-Germain. Il doit aussi se rendre compte que il y a des choses à pas faire quand t'es un joueur leader.
Merci Loïc Tanzi. Dans un instant, Marcel Desailly, invité de Roten Régal, le champion du monde 98 et 2000, va nous aider à lancer l'euro sur RMC. C'est ce soir 21h, le premier match Turquie-Italie. À tout de suite.